sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebet.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la radio du Monde. Appel sur l'actualité vous donne la parole jusqu'à 9h, temps universel, juste après le prochain journal, dans 20 minutes. Comme chaque vendredi, c'est vous qui choisissez les sujets dont vous voulez parler, ce sera notre libre antenne. Avant cela, place à vos questions, nos experts et nos journalistes pour y répondre. On va parler notamment de la fin de la période parisienne pour Zlatan, mais d'abord de la crise vénézuélienne avec notre premier auditeur. Il s'agit de Fiston qui nous appelle d'Abaouéré, au Togo. Bonjour Fiston.
Bonjour Marie Canadevé, bonjour à tous les techniciens de RFI.
Merci, bienvenue Fiston à l'antenne de la Radio du Monde. On écoute votre question sur le Venezuela.
En effet, Nicolas Maduro, le président vénézuélien, vient de décréter l'état d'exception au Venezuela. En quoi l'état d'exception pourrait sortir le pays de la crise? Pourquoi l'opposition s'insurge-t-elle contre la décision de Nicolas Maduro? Une majorité de Vénézuéliens souhaitent le départ du président. Une procédure de destitution est-elle possible?
Merci beaucoup, Fiston, pour toutes vos questions sur le Venezuela. Nous sommes aussi au téléphone avec Eduardo Rios, analyste à l'OPALC, l'Observatoire des politiques sud-américaines, spécialiste du Venezuela. Bonjour, Monsieur Rios.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous en ligne pour répondre aux questions de Fiston sur cette crise politico-économique que traverse le Venezuela et qui est de plus en plus profonde. Alors depuis janvier, le pays était en état d'urgence économique et depuis le week-end dernier, ce que disait notre auditeur, il est en état d'exception. Alors on va peut-être commencer, Monsieur Rios, par faire un point sur la situation économique au Venezuela. Elle touche vraiment le quotidien des Vénézuéliens depuis quelques mois.
Exactement. Tout d'abord, je dois remercier Fiston pour cette question très complète et très difficile et très un peu longue à répondre. Et je vais la prendre par bout et commençons donc par cette première partie, c'est-à-dire quelle est la crise et comment elle affecte les Vénézuéliens. La crise est marquée par trois éléments fondamentaux. Le premier est un taux de change fixe, c'est-à-dire que pour accéder au dollar, il faut passer par l'État central qui est le seul qui peut les vendre, ce qui pousse l'existence d'un marché noir qui raréfie les monnaies étrangères, ce qui, pour le quotidien des personnes, pour ne pas parler du charabia tout le temps, veut dire des pénuries très récurrentes. Le deuxième problème est une inflation très importante, de l'ordre de entre 400 et 700% pour cette année prévue, qui non seulement réduit le pouvoir d'achat des personnes, mais aussi empêche les personnes du coup qui n'ont plus de pouvoir d'achat d'acheter des produits qui sont inexistants puisqu'il y a des pénuries. Mmh. Et finalement, sur ce problème, ces deux problèmes qui sont déjà très sérieux, s'ajoute un troisième problème de chute du prix des pétroles à partir de 2015 qui n'a fait qu'empirer ces deux problèmes et donc des pénuries massives, un effritement du pouvoir d'achat et du coup des conséquences terribles, notamment en termes d'augmentation de la faim au Venezuela, FIM, et l'érosion du pouvoir d'achat.
Quand on parle de pénurie, c'est quoi? C'est des magasins vides, les gens ont du mal ne serait-ce qu'à trouver des denrées alimentaires pour survivre?
Oui, justement, en plus, il faut la pénurie, c'est toujours quelque chose de comparatif. Par rapport à avant, le Venezuela était un pays qui avait un rythme de consommation très élevé et maintenant, les magasins sont en effet vides. Les produits qui se trouvent doivent se trouver après de longues heures de file d'attente que font les Vénézuéliens et surtout les Vénézuéliennes. Et c'est un pays où la question fondamentale, quand on voit quelqu'un dans la rue avec un sac, c'est lui demander où est-ce qu'il l'a trouvé. Si, c'est vraiment un pays au qui vive.
Alors, pour revenir aux questions de Fiston, Monsieur Rios, en quoi l'état d'exception pourrait sortir le pays de cette situation? Qu'est-ce que ça veut dire un état d'exception au Venezuela?
Justement, en quoi il pourrait, et après en quoi est-ce qu'il va le changer? C'est deux questions différentes que je vais répondre l'une après l'autre. En quoi il pourrait? En ce que le gouvernement pourrait, en effet, libérer le taux de change, augmenter les liquidités en dollars pour permettre au moins de résoudre les pénuries et d'augmenter les salaires afin que les gens puissent acheter des produits qui se retrouvent à nouveau. Cependant, pourquoi est-ce que le gouvernement n'est pas à même de le faire? D'abord, il gouverne déjà par l'état des, il, par état d'exception économique, il a appelé ça comme ça, depuis février. Donc du coup, ce n'est pas un changement de donne sur le plan économique. Là où c'est un changement de donne, c'est sur le plan politique, où c'est le nouveau décret a vraiment été très offensif contre l'opposition. Mais là où la raison pour laquelle il ne va pas prendre de mesures au niveau économique est que pour libérer le taux de change, il doit perdre son pouvoir sur l'attribution de monnaie de dollars au Venezuela, c'est-à-dire perdre du pouvoir, et pour augmenter et pour accéder à des dollars frais, c'est-à-dire pour payer ses dettes et augmenter les importations et remettre la machine en marche. Puisque les taux dans les marchés internationaux sont très hauts, il ne peut le faire qu'à travers le FMI, ce qui est du coup exclu. Donc les deux, Maduro s'est mis dans une situation très bizarre dans laquelle la seule décision qu'il peut prendre avec ses pleins pouvoirs économiques lui ferait perdre du pouvoir. Et c'est pour ça qu'il ne va rien faire.
Et alors donc ça veut dire que quoi ? C'était plutôt une mesure symbolique pour dire je prends les choses en main, mais finalement il n'est pas plus libre de ses actes pour faire évoluer la situation économique ?
Sur le plan économique, oui. Ouais. Sur le plan politique, alors est-ce que maintenant, il y a des dérives possibles. C'est ça, le danger de ce
tête-à-tête. Oui, et justement, c'était aussi la question de Fiston sur l'opposition qui a rejeté massivement ce décret d'état d'exception. Est-ce que c'était là aussi pour ces raisons politiques, pour le pouvoir que Nicolas Maduro finalement a maintenant entre ses mains, un peu plus qu'avant ?
Oui, bien sûr. Chaque fois que l'on décrète un état d'exception, l'opposition va s'insurger. Ça, c'est dans les règles du jeu. Maintenant, je pense qu'elle a certaines raisons de s'insurger. Est-ce que Nicolas Maduro a le pouvoir de mettre en place d'utiliser le décret d'état d'exception avec toute la force avec laquelle il le pourrait ? Je ne sais pas. Il est très mal vu au niveau international, notamment en Amérique latine. Il y a le représentant de l'Organisation des États américains vient de d'écrire une lettre incendiaire contre lui qui n'a été désavouée par aucun pays. Et il n'est pas dans une position où il peut faire tout ce qu'il veut. Et du coup, on se demande s'il va utiliser ça. Mais l'opposition a raison d'être inquiète sur les possibles étendues de ce décret d'état d'exception, en effet. Et je pense que c'est pour ça qu'il le conteste.
Alors l'opposition, mais aussi beaucoup de Vénézuéliens, on a vu donc des très grandes manifestations, souhaitent le départ du président Nicolas Maduro, qu'il tient pour responsable de la situation. Alors où est-ce qu'on en est de la procédure de destitution ? On en parlait il y a quelques temps. Il y a aussi une pétition qui a réuni 1,8 million de signatures, c'est une spécificité peut-être au Venezuela lorsqu'on organise un référendum révocatoire qui pourrait donc ouvrir la voie à une procédure de destitution, c'est ça ?
Oui, exactement. Donc pour être très clair, le référendum révocatoire, et c'est là le centre du débat politique maintenant au Venezuela, est une clause constitutionnelle qui permet à la mi-mandat, puisque le mandat dure 6 ans et ici 3 ans, de demander, via la recollection de signatures, la démission du président. Ça, c'est très clair. Du coup, il y a un appendice à cette règle très claire qui est que si le référendum révocatoire se fait à partir de la quatrième année de mandat, ce serait le vice-président qui finira le mandat pour les deux années supplémentaires. Donc, autour de ce problème-là, toute la stratégie de l'opposition est d'organiser le référendum révocatoire maintenant, vu que la popularité de Maduro est au plus bas. Toute la stratégie du gouvernement est d'essayer d'ouvrir le processus le plus possible, de l'étendre le plus possible dans le temps, pour que ils arrivent à la quatrième année et que le pouvoir présidentiel reste dans leurs mains et que ce soit le vice-président qui prenne le pouvoir, ou que simplement l'opposition ne fasse pas de référendum révocatoire.
Alors une dernière question, juste Eduardo Rios, qui n'a pas été posée par notre auditeur, mais que je vais vous poser, c'est les menaces extérieures dont parle Nicolas Maduro. Il dit que le Venezuela est menacé. De quoi parle-t-il ?
Donc, selon son langage de propagande, il parlerait de la guerre économique et de l'impérialisme américain. Maintenant, est-ce que ce langage de propagande a un fond de vérité ? Je pense que je ne suis pas secrétaire de la contre-intelligence vénézuélienne, donc je n'ai pas, je voudrais pas donner de données que je n'ai pas, mais il me semblerait plutôt que le centre du problème maintenant soit économique et provoqué par les politiques erratiques et politiques économiques erratiques de Nicolas Maduro.
Merci beaucoup Eduardo Rios d'avoir été en ligne avec nous, analyste à l'OPALC, l'Observatoire des politiques sud-américaines, spécialiste du Venezuela, et merci à Fiston de nous avoir appelé de Adab Baouéré au Togo pour nous poser donc toutes ces questions sur la crise vénézuélienne. RFI, il est 8h20 en temps universel. On va passer à un tout autre sujet. On va parler football avec Abdoulaye qui nous appelle de Conakry en Guinée. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Marie et bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute Abdoulaye.
Marie, Zlatan Ibrahimovic a annoncé son départ du PSG via son compte Twitter.
Oui.
Le club va-t-il envisager de le remplacer? Et quel avenir pour Zlatan?
C'est Christophe Jousset du service des sports de RFI qui va vous répondre. Bonjour Christophe.
Bonjour Marie.
Alors demain, Zlatan Ibrahimovic va disputer son dernier match avec les Parisiens du PSG. Ce sera en finale de la Coupe de France face à Marseille. Il va donc mettre fin à 4 ans de collaboration. Alors la première question d'Abdoulaye, il a entendu, c'est est-ce que le PSG va remplacer Zlatan? Il faudra bien.
Oui, il faudra bien. Alors si c'était à Zlatan qu'on posait la question, il vous répondrait on ne remplace pas Zlatan, il est irremplaçable. On lui succède. Bon, ils vont quand même chercher à le remplacer, mais c'est compliqué parce que Zlatan Ibrahimovic, quand on parle de lui, on parle du meilleur joueur de ces 4 dernières années pour le Paris Saint-Germain, même peut-être de l'histoire du Paris Saint-Germain. Celui qui a été meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1 en 2013, en 2014, en 2016, il a eu un petit trou en 2015, mais parce qu'il était blessé. Bref, c'est un grand talent qu'il faut remplacer. Dans l'idéal, le PSG aimerait bien le remplacer par une grosse pointure, une autre grosse pointure du foot mondial, un autre grand attaquant. La liste n'est pas très longue. Il y en a dont on sait qu'ils sont absolument indisponibles et d'autres. Alors, est-ce que c'est du fantasme ou pas? On parle de Neymar, on parle de Cristiano Ronaldo, mais l'attaquant du FC Barcelone et l'attaquant du Real Madrid sont dans les tout meilleurs clubs du monde, ceux qui sont déjà allés par exemple en demi-finale de la Ligue des Champions, au contraire du PSG, et qui l'ont parfois même gagné. Donc c'est pas facile de faire venir des joueurs de ce niveau-là. Bon, le marché des transferts ouvre le 9 juin, donc on va voir, là les rumeurs vont commencer, les informations plus ou moins vérifiées vont commencer à tourner. Donc tous les noms vont circuler.
Alors c'est pas facile, c'est-à-dire en fait que les meilleurs sont déjà pris et bien pris, ou alors c'est pas facile de succéder à Zlatan et ça peut un peu impressionner de prendre sa place sur le terrain.
Ça peut impressionner. Le successeur naturel, il est déjà au Paris Saint-Germain, c'est Edinson Cavani, l'Uruguayen, depuis qu'il est là, depuis qu'il est en concurrence avec Zlatan Ibrahimovic pour le poste d'attaquant de pointe, le poste d'avant-centre, comme on disait avant, c'est Zlatan qui a toujours eu la préférence de l'entraîneur. Cavani, depuis des années, dit « Moi, je veux jouer en pointe ». Mais il y avait Zlatan. Maintenant que Zlatan s'en va, la place est libre pour jouer en pointe et l'Uruguayen va avoir la pression parce qu'il va falloir qu'il soit aussi efficace que le grand Zlatan Ibrahimovic. Maintenant, si on oublie les joueurs de classe mondiale, on verra si on réussit du côté du PSG à en attirer un ou deux. On peut parler quand même de Griezmann, qui est vraiment sur la lisière de cette catégorie-là. Antoine Griezmann, l'attaquant de l'Atlético Madrid, surtout s'il fait un grand euro avec l'équipe de France. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas attirer Griezmann? Ça, c'est dans le domaine du possible. On parle ces derniers jours beaucoup de Lacazette. Là, on descend un petit peu en gamme. Alexandre Lacazette a quand même été meilleur buteur du championnat de France 2014-2015, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais. Lui pourrait venir également jouer avec le Paris Saint-Germain. Voilà pour les pistes, mais
le PSG
ce ne sont
joue
pistes.
Gros là sur ce remplacement. Il a intérêt à pas se tromper.
Ah bah oui, parce que ils sont arrivés quand le Qatar est arrivé en 2011. Le projet, vous le savez, c'était de gagner la Ligue des Champions, pas seulement de gagner le championnat de France, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Tout ça a été fait, sauf gagner la Ligue des Champions. Et même le cap des quarts de finale reste un mur infranchissable pour le moment pour le PSG version Qatar. Donc effectivement. Le recrutement, il faut qu'il soit judicieux et que les futurs attaquants du PSG soient performants.
Alors ça, c'est pour l'avenir du PSG. Abdoulaye à Conakry s'inquiétait aussi de l'avenir de Zlatan. Qu'est-ce qu'il va devenir?
Alors Zlatan sait où il va aller. En tout cas, c'est ce qu'il a dit chez nos confrères de beIN Sport. Mais il a dit aussi, je ne vous le dirai pas. Donc pour l'instant, ça reste un secret. On en est donc réduit à faire des hypothèses. Est-ce qu'il va revenir en Italie? C'est une possibilité. Lui qui a passé pas mal d'années en Italie, Zlatan, il a joué à la Juventus de Turin, il a joué à l'Inter de Milan, il a joué au Milan AC. Le Milan AC semble être le club qu'il a le plus marqué et disons que son cœur pencherait pour le Milan AC s'il devait retourner en Italie. Maintenant, le problème du Milan AC, c'est que actuellement ils ont terminé le championnat d'Italie en 7e position, donc ils joueront pas la Coupe d'Europe a priori la saison prochaine, sauf si ils gagnent la finale de la Coupe d'Italie ce week-end. Donc point d'interrogation pour la piste du Milan AC. L'Angleterre, Zlatan disait lui-même qu'il avait des discussions en cours de saison de Ligue des Champions. À l'occasion d'une conférence de presse, il avait dit que des discussions entre ses agents et certains clubs anglais étaient en cours. Rio Ferdinand, ancien grand joueur de Manchester United, a tweeté très récemment pour l'arrivée de Zlatan en Première Ligue. Il dit que notre championnat a besoin d'un joueur de cette trempe-là, d'un caractère comme ça, et aussi d'un fameux buteur comme ça. Mais là encore, il y a un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas si Mourinho va prendre les rênes de Manchester United. Et donc, on ne sait pas quel entraîneur va pouvoir émettre des souhaits. Prendre Zlatan ou pas.
De répondre aux questions d'Abdoulaye finalement. Hein. Ce sont encore que des suppositions.
Ben forcément, c'est encore, parce que cette saison n'est même pas encore totalement terminée. Ouais. Il y a encore les finales de coupe à jouer. Le marché des transferts n'est même pas encore ouvert. Donc, il n'y a que des hypothèses. L'Italie, l'Angleterre. Il y avait aussi le championnat nord-américain, la MLS. Qui semblait être une piste assez chaude, mais ça coincerait au niveau du salaire. Vous savez que Zlatan, cette saison, c'était 20 millions d'euros de revenus cette saison, donc c'est un gros budget, et la MLS ne semble pas disposée à débourser une somme aussi importante.
Christophe Abdoulaye, vous êtes toujours en ligne avec nous?
Oui, oui.
Vous aviez une dernière question sur une déclaration de Zlatan.
Oui, Zlatan a déclaré « Je suis arrivé comme un roi, je suis parti comme une légende ». Peut-on parler de légende alors que le PSG n'a pas pu décrocher la Ligue des Champions?
Et peut-on parler d'une blague ou de sérieux, à votre avis?
J'ai l'impression que Abdoulaye a mis la réponse déjà dans la question. Ouais, non, la définition de légende, j'ai regardé dans le Larousse, récit à caractère merveilleux où les faits historiques sont transformés par l'imagination populaire ou l'invention poétique.
Alors, on saura ça quoi dans 10, 20 ans quand on reparlera de Zlatan?
Il me semble qu'il faut un peu de recul avant de... Bon, il s'est autoproclamé légende. Alors
est-ce
après...
de l'humour, alors justement, est-ce que c'est un trait d'humour, ça ou pas?
Bah, disons qu'il y a une grande part de jeu dans les postures de Zlatan tout au long de son passage en France. Il nous a gratifié de quelques déclarations qui sont parfois... il y a toujours une part de mégalo, déjà. Et puis, quelquefois, on verse dans le scandale. Est-ce qu'il y a uniquement du jeu ou bien il dépasse les bornes de bonne foi, j'allais dire?
Ouais. Il sait y faire, en tout cas, hein, pour alimenter... sa légende peut-être, ou sa future légende, en tout cas sur les réseaux sociaux, ça.
Il n'a qu'une. Il a toujours une préoccupation, c'est d'attirer tous les projecteurs sur lui. Et c'est ce qu'on a vu à l'occasion de la 38e et dernière journée du championnat de France le week-end dernier, où tout a été organisé. Il a transgressé toutes les règles qui s'appliquent à toutes les journées de championnat, à tout le monde, à toutes les équipes, à tous les joueurs. Par exemple, en toute fin de match, c'est lui qui décide de sortir en laissant venir ses enfants sur la pelouse. Ses deux jeunes enfants sur la pelouse, il les prend dans les bras et il quitte son équipe pour la laisser à 10 parce que les trois remplacements ont été faits. Donc, il abandonne son équipe en quelque sorte. Mais il l'a fait avec la bénédiction de la Ligue nationale de football. Mais ce sont des choses... Le match a été arrêté à la 10e minute de jeu parce que il fallait faire une ovation à Zlatan. La dernière fois qu'on avait fait une ovation à un grand joueur, c'était Johan Cruyff. À la 14e minute du match Pays-Bas-France, on avait arrêté, mais Johan Cruyff était mort. Et c'est une légende absolue pour
Alors,
le coup
pour
du football.
Alors, pour revenir à la légende, finalement, Zlatan, de son vivant, nourrit sa future légende. On peut dire ça ?
Oui, disons
que... Il aimerait bien, en tout cas...
Pour revenir sur ce terme de légende, on peut dire qu'il est une légende du PSG, parce qu'il il reste à ce jour le meilleur buteur de l'histoire du PSG, et aussi, samedi dernier, il a battu le record du nombre de buts marqués sous le maillot du PSG dans un seul championnat, avec un total de 38,
merci.
Mieux que Bianchi.
Merci Christophe Jousset d'avoir répondu aux questions d'Aboudaï tout à l'heure, juste après le journal. La Libre Antenne dans la seconde partie d'Appel sur l'actualité.
Priorité santé.
Claire Hédon vous a...